Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Moussa Maman de la radio Sahara FM Agadez, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble de 8 régions du Niger grâce à un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes des radios Sahara FM 97 MHz et Nomad FM 101.9 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème le braconnage de la réserve communautaire de Timia. Quelles conséquences sur l'écosystème? Bien qu'étant situé dans la zone aride et désertique du Niger, l'Aïr a une importante richesse faunique, principalement dans la commune rurale de Timia. La commune de Timia a une végétation assez diversifiée et répartie de façon hétérogène. Elle se compose d'une grande variété de plantes luneuses et herbacées. Quant à la faune, elle est peu diversifiée et est composée d'outardes, de gazelles, de chacals, de mouflons à machette qu'on trouve au niveau des hauts massifs, celui des galaques, des babouins d'Oguera, des autriches, d'oiseaux migrateurs et divers types d'oiseaux et reptiles. Le braconnage est aujourd'hui la principale menace pour l'Aïr Ténéré. Comment protéger et préserver ces espèces? Quelles conséquences pour l'écosystème? Quel rôle joue la population et les services de l'environnement dans la lutte contre la gestion de la réserve? Quelles sont les mesures prises face aux braconniers? Pour en débattre, nous avons invité M. Mohamed Alimane, maire de la commune rurale de Timia. Monsieur le maire, bonsoir.
Bonsoir, Moussa.
Monsieur Al-Kassim Hada, acteur de la société civile. Bonsoir.
Bonsoir, Moussa.
Lieutenant Ilyas Boutali, communal de l'environnement de Timia. Monsieur Dame, bonsoir et bienvenue à tous. Nous allons débuter ce forum avec M. Ilyas, le communal de l'environnement de Timia. M. Ilyas, comment se présente la réserve de Timia?
D'accord, merci beaucoup. La réserve communautaire de Timia est une idée. La création est venue de l'idée de la population elle-même. Donc, c'est une réserve communautaire. Donc, sa superficie à l'ouest, Comme nous avons eu à faire l'étude juridique, on a déterminé, on a tracé une carte provisoire qui est limitée à l'ouest, à Tewat, au nord, par la vallée des Ilalettes et à Sodé, au sud, Upsaran, Oblalen, et à l'est, vers Tchumferretan. Donc, pour le moment, c'est une carte provisoire qui peut être augmenter ou diminuer un peu. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la population, comme le dit, la population est vraiment à l'engouement de cette réserve. Elle veut vraiment la création et qu'elle soit une gestion participative.
Quelles sont les menaces auxquelles elle est confrontée?
Bon, les menaces, comme dans tout domaine faunique, le braconnage, c'est-à-dire le braconnage des gens qui font pas la chasse légale. Ils font ça la nuit, une chasse nocturne, ils font ça très tôt le matin, ils font ça à l'absence des services techniques et de la population elle-même. Donc, avant même, c'est une population d'espèces. Avant même qu'il y ait un déclin, c'est une population réduite aujourd'hui. C'est-à-dire, l'objectif avant même, c'est d'avoir une faune qui n'a pas d'inquiétude. Déjà, l'habitat existe, elle peut se reproduire facilement. Donc, l'objectif, c'est le tourisme. Le tourisme et l'objectif visé à long terme, c'est que nos petits-enfants arrivent à découvrir, à voir de tout près, de près les animaux sauvages, c'est-à-dire les autruches, les chacals, les mouflons en machette. Et encore, l'objectif visé, c'est encore la translocation des espèces qui ne sont pas ici, mais l'objectif c'est de les faire venir ici aujourd'hui.
Donc, monsieur le maire, on revient avec vous. Étant le premier responsable de la commune rurale de Timia, êtes-vous conscient de cette menace de la réserve communautaire par les braconniers?
Bonsoir Moussa.
Bonsoir Sylvain.
Oui, bien évidemment, nous sommes très conscients de la menace qui pèse sur la réserve naturelle communautaire d'Imoune et Galar. Plusieurs menaces, dont principalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'introduction du braconnage. Et ce braconnage, il est pratiqué dans toute la réserve et constitue une menace réelle, en tout cas pour la survie de certaines variétés qui vivent dans cette zone-là.
Alors, comment se fait la gestion de la réserve?
La réserve communautaire, nous la gérons de façon, comme son nom l'indique, de façon communautaire. Nous impliquons les populations dans sa gestion et nous avons un instrument fort important pour sa protection. C'est une équipe d'éco-gardes communautaires que nous avons recruté dans la communauté, une vingtaine, dont des femmes aussi bergères qui nous aident dans la surveillance de cette réserve naturelle communautaire. Pour revenir au braconnage, qui constitue donc la principale menace, il est pratiqué sous diverses formes aujourd'hui. Il y avait autrefois, jusqu'à pour le moment encore, il y en a qui continuent, des pièges traditionnels, mais qui prélèvent principalement les mouflons. Et aujourd'hui, la menace la plus importante, c'est par arme à feu. C'est que des braconniers qui viennent avec des armes à feu, qui tuent les animaux, donc principalement les mouflons en machette, parce que c'est une espèce en tout cas qui aujourd'hui nous voudrons garder jalousement, parce que c'est une espèce en voie de déperdition dans tout le monde. Et Dieu merci, il y a une bonne communauté de cette espèce-là qui vit, une centaine qui vivent dans les monts Egalar et qui des fois peuvent nomadiser dans d'autres montagnes environnantes aussi connexes comme les monts Bilat ou bien même les monts Bundai, même vers Guidé aussi. Donc, en tout cas, cette communauté des mouflons navigue entre ces montagnes-là. Et donc, nous faisons tout, en tout cas, pour pouvoir la préserver contre les braconnages.
Monsieur Al-Kassoum, vous êtes représentant des acteurs de la société civile de la commune rurale de Timiam. Quel rôle vous jouez pour la protection et la préservation de la réserve communautaire?
Voilà, donc merci Moussa. Par rapport au rôle que nous pouvons jouer en tant qu'acteurs de la société civile, c'est surtout les sensibilisations auprès des populations, notamment des populations qui sont tout autour du mont Egalak et surtout les riverains qui sont vraiment en contact direct avec certaines espèces fauniques, notamment les mouflons, les singes patasses, les babouins. Donc vraiment, ces communautés, il faut les conscientiser dans le sens où vraiment de préserver cet environnement pour vraiment avoir un équilibre dans notre écosystème.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour la protection et la préservation de cette réserve communautaire?
C'est surtout les sensibilisations, de ne pas vraiment braconner, de donner des informations en permanence, un suivi, surtout permettre à la communauté aussi que vraiment qu'elle soit impliquée directement dans la gestion vraiment de ces espèces, parce que c'est quoi implication? C'est surtout les sensibiliser pour qu'ils puissent donner des informations si vraiment ces espèces sont menacées, et voilà.
Avez-vous des moyens suffisants pour protéger ces espèces?
Ben c'est ça qui manque, les moyens, parce que là, effectivement, donc, ces moyens n'existent pas et nous sommes là, peut-être ça va venir d'un moment à l'autre, parce que d'abord il faut que nous-mêmes, acteurs de la société civile, les riverains, la population, toute la communauté soit consciente que vraiment cette richesse que nous avons constitue vraiment une richesse importante pour Timia et pour l'Agadez et pour l'ensemble du pays, pour le monde entier aussi. Donc là, si nous sommes conscients que vraiment c'est important, là, peut-être nous aurons des partenaires qui peuvent nous accompagner dans ce sens-là. Et voilà, donc peut-être un jour, donc, nous aurons ces moyens. Mais pour le moment, le moyen d'abord en est donc c'est de sensibiliser ceux qui sont.
Comment vous faites cette sensibilisation?
Sensibilisation, c'est surtout à travers des réunions publiques, des réunions individuelles ou des rencontres individuelles, des rencontres dans des endroits ou pendant des fêtes traditionnelles, notamment des mariages ou autres cérémonies. Donc on glisse cette information pour permettre à la population vraiment d'être impliquée dans la gestion de cet environnement précieuse pour l'ensemble de la commune.
Merci, M. Al-Kassoum. Alors, qu'est-ce que vous faites pour la protection et la préservation de cette réserve de Timia?
D'accord. Donc, avant même, le service de l'environnement a sa mission régalienne avant même. C'est-à-dire, c'est de surveiller cette faune et le suivi régulier aussi de ces braconniers. Donc, avant même, c'est une tâche régalienne des services de l'environnement.
Alors, est-ce que vous avez des moyens suffisants pour protéger ces espèces?
Bon, les moyens suffisants, pour le moment, on n'en a pas parce que ça, qui dit braconnage, c'est une activité qui se fait à l'absence des individus, à l'absence de ceux qui la font. Donc, comme c'est une montagne qui a une très grande superficie, les moyens manquent pour le moment, c'est-à-dire les véhicules manquent, les motos manquent et le personnel aussi est insuffisant. Mais ce que nous avons combien, c'est le soutien aussi de la communauté.
Alors, monsieur le maire, comment faites-vous la protection et la préservation de cette réserve communautaire?
Donc, comme le dit l'acteur de la société civile, monsieur Al-Kassoum Hada, notre principal outil de travail, ce sont les sensibilisations. C'est des sensibilisations pour que les populations protègent. Parce que c'est une protection que nous voulons, une protection communautaire. Nous avons vu les limites des protections qui ont été faites par l'État. Par l'État. Aujourd'hui, c'est ou bien par le service de l'environnement. Il faut qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où c'est aux communautés elles-mêmes de protéger leur écosystème. Donc, nous faisons ces missions d'information et de sensibilisation et aussi nous organisons souvent des patrouilles mixtes avec les services de l'environnement, différents, les services communaux aussi et la commune, des missions mixtes, des patrouilles pour pouvoir aussi dissuader les éventuels braconniers. Donc, souvent, en tout cas, chaque mois, on a cette mission est organisée et nous impliquons les services, les communautés dans ces missions-là. Aussi, nous avons placé des caméras aussi, pièges, sur les monts qui sont en train de filmer certains mouvements des animaux dans ces zones-là. C'est dans le cadre d'un inventaire que nous voulons faire, un inventaire exhaustif, en tout cas, des ressources fauniques et floriques du monde Ngala. Donc cet inventaire-là, pour nous, il est important pour savoir, dénombrer, en tout cas, toutes les espèces qui vivent dans ces montagnes-là. Et là, c'est un appel que j'ai fait à plusieurs partenaires qui nous appuient aussi dans ce cadre-là. Et nous avons des contributions dans ce cadre-là pour aller vers cet inventaire-là exhaustif. Nous avons déjà le projet lui-même de création de la réserve de façon juridique. Il a été soutenu par certains partenaires, dont la société SOS Orpaillage, de Alaa Issa Alaa Ibrahim, des projets PGO qui travaillent dans la région d'Agadez. La Sonichar aussi. Donc ça, c'est dans le cadre de la création de la réserve. Et aujourd'hui, dans le projet d'inventaire des ressources, nous avons sollicité aussi certains partenaires qui, nous espérons, seront aussi mobilisés pour, en tout cas, faire cet inventaire-là, parce qu'il est important pour savoir réellement quels sont les dénombrements des espèces, tout ce qu'il y a comme espèces, que ce soit florique ou faunique, dans les monts Ngala.
Quels sont les moyens que vous disposez?
Ben, les moyens, d'abord, il y a tout, bien évidemment, je voudrais tous ces réseaux-là des communautés, des éco-gardes, des moyens humains. Donc, ces éco-gardes-là, c'est leader du Valais, ces responsables villageois, comme les chefs coutumiers et autres, là, qui nous impliquent en tout cas dans ces viviers-là, qui luttent pour la protection de l'environnement. Et les moyens de la commune sont souvent mobilisés, et surtout ces appuis-là que nous donnons, nous bénéficions des fois de façon ponctuelle avec des partenaires dont tantôt j'ai évoqué. Mais bon, il est sûr que nous cherchons à mobiliser davantage de ces moyens-là auprès du ministère de l'Environnement, auprès des institutions qui luttent aussi, qui ont les mêmes idéaux que nous dans ce cadre-là, pour mobiliser plus de moyens.
Alors, monsieur Al-Kassoum, Hada, vous êtes représentant des acteurs de la société civile ici dans la commune de Timia. Comment comptez-vous apporter votre contribution pour protéger et préserver la réserve?
Voilà, en tout cas, nous, notre contribution déjà que nous sommes en train de fournir, nous l'avons déjà, nous sommes déjà là ici. Je le disais tantôt, donc c'est surtout les sensibilisations. Et surtout, la participation aussi à des activités, bien sûr, notamment les activités de dissuasion. Si on nous implique, si on nous demande vraiment d'être dans la mission de suivi, là, on est disposé pour ça. On est vraiment disponible pour ça. Donc, en dehors de ça, la société civile, c'est l'ensemble de la communauté. C'est l'ensemble de la communauté.
C'est la population.
Voilà. Donc, cette population-là, vraiment, il faut qu'elle soit consciente à travers ses leaders. Ses leaders, les leaders coutumiers, les leaders religieux, les leaders administratifs, et même les chefs de famille. Donc, tout ce bon monde-là doit être impliqué, doit être sensibilisé. Et qui va les sensibiliser? C'est surtout les acteurs de la société civile. Particulièrement, il y a la chefferie qui doit être impliquée, les chefs traditionnels, les marabouts, les représentants des chefs de ménage. Bien sûr, ceux qui sont conscients que pour que cette communauté soit conscientisée, hein, pour que vraiment un grand nombre de communautés soient impliquées, pour que vraiment cette communauté elle-même soit consciente que vraiment cette gestion elle est participative et que donc elle n'émane pas des personnes, elle émane de la communauté elle-même. Donc vraiment là, c'est notre rôle de le faire et nous sommes là en train de le faire pour accompagner vraiment ce processus.
Merci. Monsieur Ilyas Boutali, au communal de l'environnement, quelles sont les conséquences du braconnage sur l'écosystème?
Les conséquences, c'est que cette faune peut disparaître. Les petits, le reliquat qui existe, si on ne prend pas garde, va diminuer après les jeunes enfants ne vont pas découvrir les autruches qui existaient auparavant. Les mouflons qui existaient auparavant, ils n'auront pas la chance de les voir. Donc les conséquences, elles sont nombreuses aussi. Il y a les recettes touristiques qui ont baissé déjà.
Et où se situent les responsabilités?
Bon, pour le moment, la responsabilité, on ne peut pas dire qu'elle se situe quelque part, quoi. C'est-à-dire... Pour le moment, les services régaliens, les services chargés de l'environnement, c'est ce qu'on dit, l'État a amené un agent de l'environnement, c'est-à-dire le chef de service communal de l'environnement, et son adjoint, un sergent. Donc, comme c'est une vaste zone, des individus ne peuvent pas la couvrir. Donc, il y a le manque de moyens, l'insuffisance du personnel. Donc la responsabilité, on peut dire qu'elle est partagée aussi, mais...
Elle est partagée comment?
Waouh, c'est-à-dire qu'elle est partagée, c'est-à-dire
vous,
chacun...
Vous, de votre côté, le service de l'environnement, vous avez une responsabilité de...
Oui, c'est-à-dire notre responsabilité, avant même, c'est... Nous sommes payés pour protéger cette faune. Mm-hmm. Mais quand j'ai dit qu'elle est partagée, donc de chaque côté, il y a insuffisance des moyens, comme je l'ai dit. Donc la responsabilité, si les gens avaient des moyens... humains et financiers, là, ils peuvent faire leur travail. Mais l'État, comme l'État a beaucoup de besoins, et encore, c'est une réserve communautaire qui est en cours de création. Donc, un jour, si Dieu le veut, un jour, nous savons que nous croyons qu'avec l'appui de la population, et parce que la population veut vraiment voir le retour de ces animaux comme ils existaient avant. Donc, une fois que la population arrive à être responsabilisée dans la gestion participative de cette réserve, nous croyons que les solutions vont venir après.
Vous parlez de retour de ces animaux. De ces animaux, comment pensez-vous qu'il y aura ce retour de ces animaux?
Donc, déjà, nous avons l'habitat. C'est un acquis. la montagne là, il y a d'autres endroits où il y avait de l'eau. Donc le retour de des animaux, donc il y a la paix. Si un animal est dans des conditions et il n'est pas gêné, il peut se reproduire facilement. De l'autre côté, encore les espèces qui manquent. Donc si on peut un jour les amener ici, les ramener, elles peuvent se reproduire. Donc en créant des conditions, l'eau, les salines, éviter le braconnage, la pollution du sol aussi, la pollution de l'eau, de l'air et du sol aussi. Là, vraiment, les gens peuvent espérer un jour la reproduction de cette faune.
On revient avec vous, Monsieur le maire. Quelles sont les conséquences du braconnage pour la réserve communautaire de Timia?
Merci, Moussa. Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur une anecdote pour vous préciser le niveau d'éveil des communautés à protéger l'environnement. Autrefois, quand les braconniers viennent sur la montagne, avant quand il n'y avait pas cet éveil de conscience-là, les braconniers, ils pétillaient un mouflon et puis, bon, partageaient une partie de la viande avec les bergères qui sont sur la montagne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que nous avons été témoins de beaucoup de récits qui nous reviennent de la montagne, du moins également, disons, des braconniers qui ont été aperçus par des bergères, des femmes bergères avec des armes à feu. Et ces femmes-là, aujourd'hui, vu leur niveau d'éveil, elles ont crié sur ces braconniers-là, leur disant que vous voyez, c'est un tel, on vous connaît, on va vous dénoncer. Si vous tuez ces mouflons-là, on va vous dénoncer. Vous voyez? Donc, ça a vraiment changé. Avant, elles partageaient la viande avec les braconniers. Aujourd'hui, elles empêchent aux braconniers de tuer ces mouflons-là.
Il y a une prise de conscience.
Ce sont des femmes, en plus, des femmes bergères qui vont affronter un homme armé et lui dire de ne pas tuer les mouflons-là. S'il le fait, ils vont les dénoncer au service de la commune ou bien au service de l'environnement. Donc, vous voyez, nous, vraiment, on voit qu'il y a un résultat. Et aujourd'hui, on voit aussi le nombre qui s'est multiplié aussi, surtout des mouflons de l'ailleurs. Donc, les conséquences, c'est vraiment, pour nous, c'est le péril qui menace la disparition de cette espèce-là si le braconnage continue. Et donc, c'est la principale menace, c'est ça, c'est vraiment la perte de cette biodiversité-là. Aujourd'hui, vous voyez, les chacals tentent de crier par les communautés, soit disant qu'il fait des ravages dans les enclos de chèvres ou bien dans les troupeaux de chèvres. C'est parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un dérèglement de la chaîne animale. Aujourd'hui, c'est parce que certaines espèces ont disparu, comme l'hyène qui existait autrefois, comme les lions. Donc aujourd'hui, donc pour nous, c'est le braconnage. Et la conséquence, c'est vraiment la perte de cette diversité-là de l'espace animal dans l'air. Donc, dit perte d'une espèce. Voit aussi donc tout ce qu'il y a comme aspect des règlements sur les êtres vivants, sur le climat, sur autres aussi.
Voilà. Alors comment situez-vous les responsabilités?
Les responsabilités, elles sont partagées, je voudrais dire aujourd'hui, avec la limite de la protection dirigiste par l'État, nous voyons certains résultats. Avec la protection communautaire. La responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir en tout cas aller jusqu'au bout des crimes, parce qu'il faut dire que le braconnage, c'est un crime contre l'environnement. Il y a des espaces qui sont strictement protégés. Donc les délinquants qui les tuent sont exposés à plusieurs peines. Donc ces droits-là que nous voudrons aujourd'hui être appliqués sur l'environnement. Il faut que les droits de l'environnement soient appliqués aussi dans notre commune. Donc, malheureusement, les brigades sont loin, c'est à Ifirouane, la justice aussi, c'est à Ifirouane, c'est loin.
Vous pensez que ces droits doivent être restaurés dans votre commune?
Ces droits doivent être restaurés dans notre commune, c'est beaucoup plus. On n'a qu'un seul agent qui ne dispose ni d'un seul agent plutôt, plus ou moins, c'est un qui est assidu. Donc, il nous faut beaucoup de moyens, en tout cas de surveillance, pour pouvoir en tout cas traduire les délinquants contre l'environnement au niveau de la justice. Parce qu'il nous faut vraiment... la justice aussi a ses moyens de fonctionner. Il faut souvent des preuves, quoi. Si on ne peut pas faire juger quelqu'un sur la base des dénonciations. Il faut toujours prendre quelqu'un avec son gibier qu'il a tué, avec son arme, tout ça là. Et ça, c'est difficile à collecter en même temps pour les présenter devant les juges. Donc, pour nous, il faut encore, en plus de la communauté, plus de présence aussi des services de l'environnement de l'État, et qui sont assermentés à produire des procès-verbaux au niveau des juges.
Monsieur Al-Kassoumada, selon vous, quelles conséquences le braconnage a-t-il sur l'écosystème?
Vraiment, à mon entendement ou à ma compréhension, les conséquences qui peuvent être liées à ce braconnage, d'abord, c'est la prolifération des armes automatiques. Là, si, bien sûr, ces armes automatiques-là sont achetées ou destinées du braconnage, après l'élimination de toutes ces espèces, notamment les mouflons à machette, c'est ça qui est surtout convoité par des braconniers. Donc, si cette espèce disparaît, donc ces armes-là vont jouer quel rôle? Donc ça, peut-être ils vont se tourner vers le banditisme. Du banditisme. Surtout, le banditisme, c'est des coupeurs de routes, des voleurs de véhicules, tu vois. Donc, tous ces trucs-là, c'est des conséquences liées à la prolifération des armes automatiques. Donc là, le braconnage, en amont, ça existe, mais le braconnage, on a peur traditionnelle à travers des pièges.
Surtout,
mais
ces dernières surtout années, les conséquences sur l'écosystème.
Bon, c'est surtout sur l'écosystème. L'écosystème, surtout, il y aura un déséquilibre. Ce déséquilibre, ça sera donc, ça peut être lié à l'absence de ces animaux peut amener un déséquilibre sur l'écosystème. Donc c'est ça, donc ça peut amener des changements, qu'on ne peut pas nous comprendre peut-être, mais peut-être des scientifiques ou des experts en environnement, plus tard vont dire que voilà, c'est parce que ces espèces sont disparues, c'est pour cela ce déséquilibre dans l'écosystème, le manque de pluie, ou le manque de certaines végétations, ou le manque de certains trucs qui peuvent être utiles dans l'équilibre de l'écosystème.
Alors, où se situent les responsabilités, selon vous?
Les responsabilités par rapport
Par rapport à ces braconnages.
Les responsabilités, moi, je pense qu'elles sont d'abord d'ordre général. Pourquoi je dis d'ordre général? Donc là, si la communauté est complice, donc ça veut dire qu'ils sont responsables. La communauté d'abord, il faut qu'elle soit responsable. Pourquoi? Parce qu'elle ne dénonce pas certaines pratiques qui peuvent être nuisibles à l'environnement. Ça, c'est une des grandes responsabilités qui peuvent être se situer. Deuxièmement, les services de l'environnement. Les services de l'environnement, notamment le maire l'a déjà souligné, donc est quasi même absente dans cette réserve, parce que nous disposons d'un seul agent, CIDI. Donc là, la responsabilité de l'environnement aussi est là, parce que là, il faut vraiment un appui fort pour accompagner ce processus-là vers l'environnement. Il manque des petites missions d'un mois ou d'un trimestre peut-être suffit pour dissuader un peu. Mais si ces genres de missions ne sont pas planifiées ou programmées par le service de l'environnement, là, donc, il peut y avoir un laisser aller. Donc, vous voyez. Donc, là aussi, c'est une responsabilité qui est là. Donc, vraiment, le service de l'environnement de l'État, je dis, il faut que vraiment soit assidu et aussi vraiment présent pendant ce processus-là, pour que vraiment, en attendant que les communautés soient peut-être conscientes que vraiment maintenant elles sont impliquées, peut-être là, peut-être elles vont gérer d'elles-mêmes la suite d'ici quelques années. Voilà.
Merci, monsieur Al-Kassoum. Monsieur le communal, monsieur Ilyas Boutali, communal de l'environnement, quelle sera votre solution pour y remédier à ce phénomène de braconnage?
Pour le moment, la solution que je vois, même les braconniers ont une responsabilité. Eux aussi, ils doivent protéger cette faune-là. Ils ne doivent pas la battre sauvagement comme ça. Là. Ils doivent suivre les services, ce que la loi dit, c'est-à-dire de ne pas abattre les animaux sauvages comme ça. Là. Donc, pour la ramener aussi, il faut qu'eux aussi sachent qu'ils font des dégâts dans leur zone, donc pour diminuer ce braconnage. Ils doivent être conscients. Et moi je peux dire que s'il y a des mesures de compensation, c'est-à-dire ces mêmes chasseurs-là, on peut les mêmes braconniers, si on les utilise en tant que gardien de cette faune-là, les écogardes, et la population elle-même, je crois que ça va diminuer. Bon, la solution, si tout le monde se donne, si chacun se donne, si chacun a la même pensée, la population, la chefferie traditionnelle, la chefferie religieuse et l'autorité, si chacun se met en tête que nous avons un devoir de protéger cette faune-là pour les générations actuelles et futures, là, je crois que nous pouvons être sûrs que le retour peut un jour être réalisé. Ce que je peux dire, c'est que le projet, le bar des fonds, pour que le retour de ces animaux, eux aussi, ils doivent mettre leurs mains dans leurs poches pour créer certaines activités, c'est-à-dire pour restaurer l'environnement. C'est-à-dire, si on arrive à restaurer l'environnement, le pâturage aérien et le fourrage reviennent, là, l'habitat, les animaux auront l'habitat bien fait, ils auront leur alimentation, c'est-à-dire le pâturage aérien, il est là. Donc, vraiment, l'État aussi, avant même, c'est son rôle, et elle le fait, mais elle doit encore augmenter ce qu'elle doit faire. Et la population locale, elle aussi, déjà, elle a l'engouement. Si vraiment elle se donne 100%, là aussi, nous espérons, avec l'appui, avec l'expérience des forestiers, là aussi, si nous nous donnons tous au même objectif, un jour, on peut arriver à le faire. Mais ce qui est clair, mon cri, c'est de restaurer l'environnement, parce que qui dit réserve communautaire de Tchoumia, à quelques centaines de kilomètres, c'est le Sahara, c'est le Ténéré. Donc, si nous n'arrivons pas à restaurer l'environnement là, le Sahara, qui est une énorme machine silencieuse qui avance vraiment. Donc, notre responsabilité, la population elle-même et les bailleurs de fonds doivent se mettre en tête que chercher le déséquilibre, chercher l'équilibre écologique, c'est ce qui est l'idéal. Une fois l'équilibre écologique est fait, la faune peut revenir. Et la population elle-même, c'est-à-dire nous avons vu l'exemple de Kouré, là où la population est là, les girafes sont là, elles ne sont pas menacées. Donc si chacun se met en tête qu'il peut cohabiter avec la faune, donc ce qui est clair, la faune va revenir.
Monsieur le maire de la commune de Tchoumia, quelle sera votre solution pour y remédier à ces phénomènes de braconnage?
Oui, les pistes de solution, elles sont peut-être nombreuses. Et sûrement que la surveillance a vraiment accentué, la surveillance très soutenue, cette montagne-là, peut effectivement venir à bout de ces fléaux-là qui est le braconnage. Il faut vraiment accentuer les services de surveillance et surtout une surveillance communautaire. Une piste aussi, c'est l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, nous mettons beaucoup des efforts de sensibilisation dans la sensibilisation environnementale, que ce soit au niveau des communautés, des riverains, des gens de passage, et aussi aujourd'hui sur les élèves, principalement les collégiens du CS à Rombolo. Nous vraiment mettons beaucoup de moyens aussi, des efforts de sensibilisation. La preuve est qu'on a organisé un voyage sur ces monts également, d'une quarantaine d'élèves du lycée de Rombolo, qui ont passé, chaque groupe a passé 3 jours sur la montagne. Et l'objectif, c'est vraiment de leur faire découvrir ces merveilles-là. Ils sont nés à Timia, ces jeunes garçons-là, ou bien ces jeunes filles-là, mais ils ne sont jamais montés sur la montagne. Ils n'ont jamais vu les mouflons. Ils ont la chance d'observer dans la nature ces mouflons, ces babouins, ces outardes, ces oiseaux, les reptiles, tout, en tout cas tout ce qu'il y a comme richesse, les chimpanzés aussi, sur la montagne là. Et ça fait un déclic chez eux, on va trouver parmi cette cohorte là des ambassadeurs aussi, des gens qui vont s'engager aussi dans la production d'environnement. Donc l'éducation environnementale pour nous, pour les élèves, pour les enfants, pour les femmes, pour toutes les communautés, c'est important. Donc c'est aussi une piste. Une piste aussi aujourd'hui, c'est pour nous que nous sommes en train de travailler, c'est vraiment de faire des actions sur la montagne, des sauvegardes, des actions de sauvegarde, de régénération aussi des espèces dans la montagne. Parce que au flanc de la montagne, nous avons un projet qui avance, mais pour le moment, il ne sait pas quand il va aboutir, mais il avance, de faire réintroduire certaines espèces dans l'Autriche. Comme la réintroduction des Autriches dans l'Aïr, de façon naturelle. Nous sommes vraiment en contact, vraiment soutenus avec les services de l'environnement au plus haut niveau, même au niveau de la DGF, au niveau de la Direction Générale des Forêts à Niamey, aussi avec certains partenaires donc à Niamey, comme les WACA, la SCF aussi. Et vraiment, pour qu'on réintroduise l'Autriche qui a disparu de façon naturelle de l'Aïr. Aussi, ce n'est pas un rêve. Et notre projet au flanc des montagnes, c'est peut-être un rêve pour d'autres, mais le sultan de l'Aïr est aussi engagé là-dedans pour réintroduire la girafe à côté de la montagne, surtout vers les vallées de Aswadé. Donc, c'est au flanc du mont Negalakh. Donc, en tout cas, nous avons des discussions assez soutenues. Le sultan de l'Aïr, il est engagé dans ça, et le ministère de l'Environnement aussi. En tout cas, de façon verbale, on a les projets et en voie, et nous allons bientôt les mettre sous papier, et puis nous croyons à ça, en tout cas, de réintroduire les girafes. Donc, pour nous, les pistes, c'est ça, c'est l'éducation, c'est la réintroduction, c'est la protection, c'est aussi des actions avec les projets de développement qui sont dans l'environnement pour pouvoir sauvegarder.
Vous avez d'appui au niveau national et avec les projets?
Nous avons soumis
pour beaucoup, la protection,
nous surtout. Avons soumis beaucoup de dossiers, de recherches de financement, beaucoup de dossiers de collaboration, de recherches de financement, d'action. Et nous, pour le moment, je ne veux pas vous dire que les projets sont financés, mais nous avons espoir, en tout cas, que ces projets aboutissent. Avec les peu de moyens que nous avons, nous avons fait ce que nous pouvons pour la création de la réserve, d'abord. Ça a un coût. Et pour aussi ces missions-là que nous organisons, des fois vraiment ces missions-là, nous les organisons à zéro franc parce que nous partons comme ça, on peut partir des fois à pied, des fois juste prendre un véhicule avec un conseiller municipal, une personne de ressources, un acteur de la société civile. Nous faisons ces missions-là pour faire le tour de la montagne. Donc voilà.
Alors, monsieur le maire, quel est votre dernier cri de cœur, surtout pour cette réserve communautaire de Timia?
Oui, mon dernier cri de cœur, effectivement, c'est de mobiliser plus de partenaires autour de cette réserve-là et aussi de voir la fin, zéro braconnage, comme on peut dire, en tout cas, zéro braconnage dans la réserve communautaire d'ailleurs. De mon Negalakh.
Merci, monsieur le maire. Monsieur Al-Kassoum Hadda, on revient avec vous. Quelles seront vos pistes de solutions pour y remédier à ces phénomènes?
Les pistes pour remédier à ces phénomènes de braconnage. Donc, d'abord, c'est vraiment de chercher des partenaires qui peuvent nous accompagner. Déjà, la commune, elle a fait un effort avec la société, avec sa population. C'est quoi ces efforts? Donc déjà, il y a eu un certain nombre d'actions, notamment les sensibilisations, l'identification de certaines espèces avec un maigre moyen. Et là, Donc, d'abord, il faut aussi chercher non seulement des actions de protection, mais aussi des actions de développement, pour que vraiment, ces communautés qui peuvent être bénéficiaires de ces actions soient pleinement impliquées, que peut-être c'est le fruit même de la protection ou de veille, de cette veille, qui peuvent être, en tout cas, être toujours du côté des riverains. Donc, pour que ces actions, en tout cas, intéressent certaines communautés qui vivent autour de cette réserve communautaire du Mont Agala et qui courtoient souvent ces animaux qui sont vraiment en voie de disparition. Voilà donc ce que j'ai à dire.
Vous avez d'autres pistes de
solutions? Oui, peut-être les pistes de solutions, oui, peut-être encore, c'est la commune doit faire des efforts pour que vraiment pousser, et surtout le service de l'environnement qui est là, donc qui peut être aussi en tout cas impliqué dans cette gestion, parce que là j'ai dit que le service de l'environnement en amont, je disais que vraiment ils sont pas tellement assidus, donc maintenant il faut que vraiment ils soient assidus, il faut que l'État à travers ses services soit vraiment présent chaque fois que chaque fois qu'il y a des actions de décision ou de lancement de certaines activités ou de sensibilisation ou de forum, pour amener vraiment ces communautés qui vivent au quotidien avec ces espèces en voie de disparition, être vraiment convaincus. Voilà.
Convaincus
que vraiment il faut vraiment sauvegarder, gérer, dénoncer, etc.
Merci beaucoup. Merci. Nous arrivons à la fin de ce forum de ce soir sur le braconnage dans la réserve communautaire de Timia. Quelles conséquences sur l'écosystème? On peut retenir que le rêve des autorités communales de Timia, c'est zéro braconnage dans la commune. Et pour que ça soit réalisé, ces rêves, il faut que tout le monde s'y met. La population, les acteurs de la société civile, les autorités, les acteurs de l'environnement, pour ensemble protéger et préserver cette réserve communautaire de Timia qui est rêve aujourd'hui pour cette population. Nous étions en compagnie de M. Mohamed Alimane, maire de la commune rurale de Timia. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre présence.
Merci beaucoup.
Nous étions aussi avec M. Al-Kassoum Hada. Il est acteur de la société civile dans la commune rurale de Timia. M. Al-Kassoum, merci pour votre...
Rien, merci à vous aussi.
Et M. le lieutenant Ilyas Boutali, le communal de l'environnement de Timia. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup.
Mesdames, messieurs, merci et au revoir.